Nous sommes de retour et nous allons parler maintenant de World War Korea.
Un rapport avec la Corée, donc.
Il y a un rapport avec la Corée et une guerre mondiale, tout à fait. Alors, je vais commencer en disant qu'il y a quelques mois, j'étais à Bagneux pour le salon Zone Franche, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai rencontré par hasard un monsieur qui s'appelle Jérôme Verschuren, qui se trouve être l'auteur de World War Korea. Donc il était là, puis... Et donc il m'a présenté son jeu, mais comme il le ferait un lambda, si tu veux. Et ce qui était intéressant, c'est que ça faisait très longtemps que j'attendais une campagne qui soit contemporaine, légèrement fantastique, et qui prendrait place dans un contexte un peu mondial, tu vois. On serait pas juste limité à une ville, comme on a souvent l'habitude. Moi, j'imaginais un truc avec des pays à traverser, des pions à pousser sur une grande carte, des choix à faire pour les joueurs, tu sais, pour décider dans quel ordre faire les missions. J'avais pensé à une sorte de mascarade. De mascarade, n'importe quoi. De masque de Nyarlathotep. Vous voyez, vous connaissez, je pense, tous la campagne du masque de Nyarlathotep et sa construction, mais j'attendais un truc plutôt genre 2014, quoi. Et en fait, j'attendais tellement ce genre de campagne que j'avais commencé à en faire une moi-même, avec assez peu de succès d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette discussion avec Jérôme, tout ce qu'il m'a décrit, ça correspondait exactement à ce dont j'avais envie. Donc ma chronique va peut-être être un peu biaisée par le fait que j'avais vraiment envie de voir ce genre de choses. Donc je vais essayer d'être le plus honnête possible là-dedans, mais ne m'en voulez pas si à un moment, il y a un peu de fanboy qui remonte.
Ah mais il n'y a pas de mal, hein.
Il n'y a pas de mal. Alors World War Korea, c'est un jeu donc, de Jérôme Verschuren qui est sorti dans la collection Clé en main, chez les 12 singes. L'idée de cette collection, c'est d'avoir une campagne de jeu de rôle complète, avec les règles et les aides de jeu comprises en un seul bouquin. Ici, c'est au format A5 ou approchant, enfin c'est le format John Doe, je l'appelle, et pas cher. Donc là, actuellement, c'est au prix de 30€. Donc avec 30€, vous avez vraiment tout. C'est vraiment clé en main. Vous avez même des personnages prétirés, vous avez plein de choses. Donc ça se présente sous la forme d'un livret de 64 pages avec la campagne elle-même. Vous avez 7 fiches volantes avec les règles du jeu. Donc elles tiennent sur 7 pages, c'est pas grand-chose. Et vous avez une feuille avec quelques caractéristiques pour les opposants, on va dire un petit bestiaire. Il y a 8 fiches qui sont autant de personnages prétirés. Et il y a 8 feuilles d'aide de jeu à découper et une feuille de suivi de campagne, rangée dans une couverture en carton épais qui fait office d'écran et de carte du monde. Donc ça, c'est pour l'objet lui-même. Donc c'est assez joli, il y a des illustrations, il y a pas mal d'illustrations. La maquette est pas très aérée, c'est vraiment écrit petit, mais il y a beaucoup d'informations. En ce qui concerne les règles elles-mêmes, donc l'auteur a utilisé une base de DK, du DK2 ou un peu de futur DK probablement, lourdement modifiée et simplifiée pour l'occasion. Pour faire un jet, tu lances 3 dés de 6. Tu fais la somme et tu ajoutes une compétence. Donc il y a une vingtaine de compétences qui couvrent un peu tout. Et on doit battre un facteur difficulté. Il y a des points d'héroïsme qui permettent d'améliorer les jets, de faire plus de dommages en combat par exemple, ou d'éviter des coups mortels. Bon, les trucs classiques des points d'héroïsme. Chaque personnage possède aussi des atouts, donc des capacités spéciales de combat qui permettent par exemple d'être plus efficace avec certaines armes, de combattre plusieurs adversaires à la fois, ou d'obtenir des bonus par exemple s'il a perdu des points de vie, une espèce de rage ou des choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la simplicité et l'efficacité du système. Donc, tout est dans les 7 pages, tout est expliqué. Ça va très vite, il n'y a pas de prise de tête, c'est expliqué de manière très directe. Le style de tout le bouquin est très direct. Bon, moi, forcément, j'aime bien parce que voilà, c'est quand même sur une base que je connais bien. Mais même, je pense, pour des débutants, ou des gens connaissant pas ce système déjà, c'est vraiment pas très compliqué de s'y mettre. C'est vraiment extrêmement simple. Il n'y a pas de règle de création de personnages, et pour cause, qu'on joue que les personnages prétirés, il n'y a pas de liste d'atouts, on peut jouer que les personnages existants, on peut pas vraiment créer ses propres personnages. Il y en a 8, la campagne est prévue pour à peu près 4-5 joueurs, donc il y a de la marge si un personnage doit mourir ou un truc comme ça. J'ai quand même relevé quelques...
Ou un truc comme ça.
Non, parce qu'en fait, dans les règles, tu peux décider aussi de simplement sortir ton personnage, genre si t'en as marre. De ton personnage, tu peux juste en prendre un autre.
Donc, pour qu'il puisse aller à l'enterrement de Mara, par exemple.
Par exemple.
Exactement. Voilà. Alors, dans les règles, j'ai quand même relevé quelques petits soucis. Juste un petit souci intéressant, amusant, par exemple, pour éviter de relancer les dés pour les dégâts, l'auteur recommande de prendre le jet qui a servi pour toucher. Bon, technique habituelle. Et le problème habituel qui vient avec, c'est que si le jet est élevé, les dégâts le sont aussi. Donc ça donne le syndrome dit du ninja de verre. C'est un ennemi avec une défense exceptionnelle qui est impossible à toucher. Bah, le jour où tu vas le toucher, tu vas juste le détruire instantanément. Parce que ton jet pour toucher sera aussi ton jet pour dommage. Bon, ça c'est juste un petit glitch. Voilà, ça arrive assez souvent dans ce. À chaque fois que tu veux utiliser la marge ou le jet, ça donne ce genre de problème. Pour les joueurs, c'est très simple de commencer à jouer. Ils choisissent un personnage, ils cochent un des deux atouts, une des deux capacités spéciales qu'il y a sur leur feuille, et puis ils se lancent. C'est vraiment. On ne peut pas faire plus simple. Hein. La création de perso et l'explication du monde, il n'y en a pas. L'explication du monde, c'est maintenant. Et la création de perso, c'est 3 minutes le temps de choisir son... Enfin, ou 10 minutes si vous avez des chiants, pour déterminer les personnages qui vont jouer. Alors, la campagne elle-même. Les personnages, justement, au moment où ils se lancent, le maître de jeu leur fait jouer l'introduction. Et cette introduction démarre au moment où les personnages se réveillent à moitié à poil dans un lit d'hôpital. La lumière vacille, il y a des tirs d'armes automatiques qui se font entendre non loin et il y a des morts partout autour d'eux. Donc on peut dire que ça commence assez brutalement. Hein. Donc ils se réveillent là-dedans, ils essaient de s'en sortir, ils essaient de se barrer de l'hôpital. Et ce côté brutal s'arrête pas jusqu'à la fin de la campagne.
Tu vois, toi aussi, tu présentes des jeux de dépressifs.
Ah non, c'est pas dépressif là. Ils se réveillent, il y a des morts partout, il faut qu'ils s'enfuient et ils ont intérêt à réussir s'ils veulent pas mourir dès l'introduction du jeu. Parce que c'est possible.
Et dans ce cas-là, effectivement, les joueurs se dépriment.
À ce moment-là, les joueurs...
Et restent debout tout seuls dans le cimetière.
Non, mais vous allez voir pourquoi c'est pas si grave, en fait. Alors, je vais pas rentrer dans les détails pour éviter de spoiler, mais il faut savoir qu'on parle, dans le jeu, on parle de conspiration, de guerre mondiale à partir de la Corée, donc, hein, d'où le nom. On parle de... Le thème, c'est la biotechnologie, les infections virales, les monstres mutants et l'écologie. Donc moi, j'adore ces thèmes. Autant la manière de les présenter... De présenter la géopolitique dans le jeu, ça m'a fait un drôle d'effet. J'avais l'impression de lire une histoire que, si tu veux, j'aurais pu écrire un peu plus jeune, tu vois, adolescent, après avoir vu un épisode de G.I. Joe. Y a des mouvements de blocs, par exemple, géopolitiques que moi je trouve difficile à avaler, genre tel pays fait tel truc, tel autre pays fait tel truc, et tu vois, ça s'embrique comme ça, et je trouve ça un peu violent et rapide. Ça va un peu trop vite, les conspirations sont trop puissantes et efficaces, tu vois, t'as une espèce de conspiration. Super balèze, et en fait, d'un coup, on apprend que les mecs ils savent tout, ils sont partout. Ah, y a un truc marrant d'ailleurs.
C'est un scénario à la Call of Duty, ça.
ouais, bah, ça fait un peu Call of Duty, effectivement. Et puis, ils sont super balèzes, donc les mecs ils sont, je sais pas, 10 millions sur la Terre dans cette organisation là. Et ils ont comme principe de jamais utiliser la technologie, donc ils peuvent pas se téléphoner. Donc, je sais pas comment tu organises 10 millions de gens sans un moyen de communication.
10 millions de mecs et 20 millions de pigeons.
Ouais, c'est ça. De pigeons voyageurs,
oui, tu vois. Oui, j'entends.
Mais non, mais c'est ça, je me dis, tiens, tu vois, c'est sur des petits points comme ça, je dis, ah bon, faut quand même avaler le truc avant d'aller plus loin. Et sur l'instant, ça m'a fait bizarre. Et en fait, ça m'a fait tellement bizarre que j'ai mis plusieurs jours, j'ai lu ça, je dis, oh putain, c'est de la merde, j'étais un peu dégoûté. Et j'ai mis plusieurs jours avant de le relire, en fait, de continuer. Et finalement, de trouver ça pas mal, notamment les scénarios. Il y a par exemple, il y a un autre truc, il y a des genres des soldats, des super soldats qui sont invincibles, ou quasi invincibles dans le jeu. Et les mecs sont pas 4 dans une unité super mal, ils sont 1 million quoi. Donc tu vois, c'est des trucs un petit peu comme ça qui me surprennent. Il y a pour ceux qui connaissent, il y a un épisode de Community. Vous connaissez Community, non ?
Oui, oui.
Ouais, de la saison 5 qui s'appelle le G.I. Jeff, il me semble, ou qui est tout en dessin animé. Et t'as tout un dessin animé entier avec vraiment années 80, avec des 3 frames, quoi, 3 images par seconde, qui explique la géopolitique vue par les Américains de G.I. Joe. Voilà, au début ça m'a fait un peu ça. Alors, en vrai c'est pas ça. C'est-à-dire que ça commence comme ça, c'est vrai que ça peut surprendre, mais en vrai, c'est pas aussi mauvais que ça.
Ça fait aussi un peu penser à L'Aube Rouge, ce fameux film anticommuniste de la fin des années 80 où le réalisateur fantasmait un conflit avec les Russes qui envahissaient le Texas. Il a récemment été remaké et c'est les Coréens du Nord qui envahissent le Texas.
Il y a un truc avec les Coréens en ce moment, il y a quelque chose qui se passe.
Voilà, tu vas éviter de spoiler la campagne, s'il te plaît. Parce que je pense qu'il y a peut-être une inspiration, parce que les joueurs sont des Texans, justement, qui se réveillent dans... Mais c'est peut-être juste une inspiration. Donc après l'introduction, les personnages vont avoir un certain nombre d'indices à suivre et de pistes à explorer. Donc c'est à eux de voir par quoi ils commencent, où ils vont, et surtout jusqu'où ils vont. Chaque piste, c'est un scénario à part entière. Dans lequel les personnages vont enquêter, combattre et dépasser des obstacles. Ces scénarios font en moyenne 2 pages, qui sont écrits petits, donc c'est pas très développé, mais enfin c'est quand même plus développé que le truc précédent, là, les six trésors par exemple, où effectivement là je trouvais que c'était vraiment de la place perdue. Là, la place est pas perdue, il y en a partout, c'est écrit petit, c'est dense, mais on sent qu'il a essayé de rentrer tout ce qu'il pouvait dans le format qui lui était imposé, mais en tout cas ça y est, si tu veux, il y a des informations, et le style fait que c'est pas alambiqué non plus et que tu retrouves tes informations facilement. Donc une fois qu'ils ont leur piste, ils peuvent décider ou pas, d'ailleurs en fonction des circonstances, des obstacles qu'ils ont vaincus ou pas, d'aller jusqu'au bout de la piste et de trouver tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que chaque piste va présenter une information principale, qui sont quand même sûrs à 90% de trouver, et une ou deux informations supplémentaires qui sont pas du tout obligées de trouver, et s'ils les trouvent pas, bah ça va influer sur le reste de la campagne. Donc c'est pas très développé, je disais, c'est écrit dans un style très direct, avec uniquement ce qui est important. Les objectifs, les opposants, les lieux et les règles spéciales sont écrits dans la piste. Donc par exemple, dans une piste, les personnages se déplaceront en hélicoptère. Dans une autre piste, ils seront en temps limité. Dans une troisième, il faudra sauver des gens. Et plus ils en sauvent, plus ils vont obtenir d'informations. Donc pour chacune de ces pistes, tu as des éléments qui vont être notés par le MJ sur la fiche de suivi de campagne. Donc il a une fiche avec des cases à noter, enfin avec des cases à cocher, avec des choses à faire. Et en fonction des réussites ou pas des joueurs, il va cocher telle ou telle case. C'est cette fiche de suivi, elle va permettre d'influer sur les autres pistes. Par exemple, si tu fais la piste 4 et puis que tu as découvert, je sais pas, un scientifique important qui va venir t'aider, si tu fais la piste 2 après, et ben le scientifique il sera là, il pourra t'aider, te donner des informations ou des bonus quelconques.
Et les interactions entre toutes les pistes sont prévues comme ça?
Ouais, tout à fait. T'as même une arborescence en fait, où ils disent voilà, t'as 5 pistes que tu peux faire avant d'arriver à celle-ci. Une fois que t'as celle-ci, tu peux déboucher sur 3 autres, etc.
Et il prévoit le comment dire, l'avancée des autres fronts qu'ils n'auront pas traités.
Alors, ça fonctionne pas exactement comme ça, mais un peu, ouais. Genre, il y a des pistes, par exemple, s'ils la font en deuxième, voilà ce qui se passe. S'ils la font en premier, voilà ce qui se passe.
Ok. D'accord.
Voilà, c'est pas aussi poussé que l'avancée des autres fronts, parce qu'en fait, tous les fronts avancent en même temps. Encore une fois, je vais pas rentrer dedans, mais c'est vraiment, il y a une organisation globale. Ils vont tenter de résoudre des situations et d'avoir des informations au fur et à mesure. Mais une fois qu'ils ont fait les 12 pistes, ils vont pouvoir arriver à l'épilogue. Fort nanti des informations qu'ils ont et des aides qu'ils ont réussi à récupérer précédemment. Et après, c'est plus ou moins dur de résoudre le combat final, on va appeler ça comme ça, même si on n'est pas un, la situation finale, quoi. Par exemple, dans le cas du scientifique, là, s'il n'a pas été sauvé dans une des pistes, il va quand même être remplacé par exemple par un autre scientifique, mais qui sera moins balèze. Donc ils auront quand même l'information principale, mais c'est plus dur, ils n'auront pas de bonus, ça va être compliqué. D'accord ? Il y a un point qui est intéressant, c'est que les joueurs peuvent tout à fait foirer les pistes, même la piste principale. Donc dans certains jeux de rôle, il y a des encadrés qui expliquent comment retomber sur ses pieds si les joueurs ratent. Ah attention, ils vont pas dans le bon sens, essayez de rebondir comme ça. Ici, bah, ils ratent, ils ont pas l'info, ils protègent pas les gens, ils rentrent pas dans les bons endroits, bah, c'est pas grave, la piste va être abandonnée, tout simplement. Les autres sont toujours disponibles, donc il y a toujours de quoi jouer. S'ils arrivent, je sais pas, n'importe quoi en Espagne, et puis qu'ils n'arrivent pas à résoudre le problème en Espagne, bah, ils ont un truc au Liban, mais il faudra aller au Liban. Et tant pis, ils auront raté l'Espagne. Donc c'est pas très grave. Il y a une trame principale à découvrir et à comprendre. Comme je disais, il y a deux autres trames optionnelles qui sont plus ou moins difficiles à suivre. Il y en a même une, ils disent elle est quasi impossible, sauf si les joueurs font ça, ça, ça et ça. C'est le one true pass, tu sais, des livres où vous êtes les héros. C'est s'ils font ça, ça, ça et ça, ok, ils auront cette piste-là. Donc je trouve ça intéressant, cette gestion de l'échec. Chacune des pistes donnera une fin différente lors de l'épilogue. Je sais pas si vous vous souvenez de Fallout. Vous avez déjà joué à Fallout ?
Oui.
Quand tu finissais Fallout, toutes les actions que tu avais fait dans le jeu, elles prenaient place dans un long épilogue à la fin. Et à chaque fois, tu disais, bah voilà, tu avais sauvé les super mutants, bah il se passe ça, les super mutants deviennent ci, ça et ça. Ah bah là, il se passe pas ça, t'as raté les super mutants, ils sont tous morts, bah donc maintenant c'est une plaine désolée. Tu te souviens de ça ? Bah là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont ils auront résolu telle ou telle situation, bah l'épilogue va changer. Ce qui donne une espèce d'arborescence de fin possible assez intéressante.
Et le tout avec une musique militaire et le drapeau américain dans le fond. Et un aigle qui passe au-dessus.
Dans Fallout, oui, il y avait ça, mais c'était pour se moquer. Donc voilà, alors, donc au final, donc, malgré quelques petites erreurs dont j'ai déjà parlé, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc c'est rapide, c'est fun, c'est plein d'actions. Vraiment, il y a toujours plein de choses à faire, tout le temps, pour les joueurs. Ça commence quasiment tout le temps in medias res. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils décident d'aller vers une piste, ils sont dans la piste, et ça j'aime beaucoup le principe. Il n'y a pas de « Oh, on y va, ça va être compliqué, machin ». Non, t'y vas pas. Ouais, bon, t'y es, t'es dans la boue, allez, on démarre.
Tu vois, c'est un FPS, en fait.
Ouais, ça fait un peu FPS, ouais, mais bien fait, tu vois.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais, carrément même. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien le principe. Le style et la présentation des scénarios me plaît beaucoup parce que c'est dense et c'est plein d'informations utiles.
Si, il y a des énigmes, faut trouver la clé bleue pour aller dans la porte bleue, tout ça. Bon, c'est un peu dur. Et puis t'as des crânes en flammes qui flottent.
Bah non, c'est pas encore ça. Non, je disais, donc les scénarios sont écrits, c'est assez dense, c'est plein d'informations. C'est plutôt pour les MJ pas trop débutants, parce que pour rajouter des trucs au milieu, bah il faut un peu d'imagination, puis faut avoir une capacité d'improvisation. Enfin, sinon le cœur y est, si tu veux. Donc j'ai déjà parlé des masques pour la manière dont les scénarios sont organisés entre eux, mais ça m'a fait penser aussi au réseau divin, si vous vous souvenez. Dans l'esprit et l'ambiance
de Pat et Chris.
Ouais, de Pat et Chris, ouais. Dans l'ambiance qui était donc paru dans Casus Belli il y a une quinzaine d'années, dans les numéros 100 à 106. Mm-hmm. Donc il y avait une ambiance fin du monde. Et surtout, il y avait plein de choses à faire, il y avait tout le temps de l'action, il n'y avait jamais de temps mort, et les épisodes s'enchaînaient sur des trucs toujours plus grandioses l'un après l'autre. Bah là, c'est un peu ça, en fait.
Les épisodes étaient sonorisés.
Et les épisodes étaient sonorisés, ouais. Alors, j'ai pas vu de... Il y a des inspirations, mais j'ai pas fait attention.
Il n'y a pas de bande-son.
J'ai pas fait attention à la bande-son, il y en aura une dans Americana, je crois, mais là j'en ai pas vu. Mais en attendant, tu vois, c'est toujours enlevé, tu rentres dans une piste, paf, il y a tout de suite des choses à faire, il y a tout de suite un mec à aller trouver, il y a tout de suite des gens à aller sauver, il y a tout de suite un laboratoire à explorer, enfin tu vois, il y a des choses comme ça. Il y a aussi un autre truc que j'aime bien, c'est le principe de... Je n'en ai pas parlé dans les règles parce que ça fait un peu partie du... Je spoil un tout petit peu, mais en gros, les joueurs vont avoir à un moment la possibilité de déterminer leur niveau de puissance. C'est-à-dire que je vous ai parlé des points d'héroïsme qui permettaient par exemple de relancer des jets ou de faire plus de dommages. Bah, à un moment, ces points d'héroïsme ne seront plus limités. C'est-à-dire que les joueurs vont dire « Ah bah tiens, j'ai besoin d'un point, je vais le dépenser là. » Et le maître de jeu va faire « T'es sûr ?» Ouais. Et le maître de jeu, il va cocher secrètement un truc derrière sa feuille. Donc, derrière son écran, sur sa feuille. Et donc, les joueurs vont pouvoir, à volonté, comme ils le souhaitent, avoir plus ou moins de puissance. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont comprendre que hein, puissance, responsabilité, tout ça. Et donc, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que le fait d'utiliser des points d'héroïsme va influer sur le monde. En pas bien, généralement. Donc, c'est vraiment un désavantage. Donc, est-ce qu'ils vont choisir de la puissance personnelle à un instant donné en échange de l'assombrissement du monde, on va dire, ou est-ce qu'au contraire, ils essayent de ne pas utiliser leur point d'héroïsme, donc d'être moins balèze en échange d'une fin un peu plus heureuse.
Et d'être finalement les vrais héros.
Probablement qu'ils seront un peu entre les deux, parce qu'ils sauront pas, parce qu'ils auront des trucs. Et le maître de jeu qui va essayer de leur poser des choix constants, tu sais, en disant t'es sûr que tu veux pas utiliser un point parce que quand même c'est difficile, etc. Non mais tu vois.
D'accord, c'est le vil tentateur en fait.
Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est de dire tu proposes des choix qui fait que est-ce que vous voulez gagner de la puissance maintenant, mais en échange ça va être un petit peu dommage et sur la fin vous risquez de vous faire avoir. Tu vois.
Mais
ça, je trouvais ça.
Je crois que c'était le principe des dés inversés qui avait été utilisé pour la première fois par Chaos 1700, je sais plus combien, qui était le premier.
Ouais, chez 12 singes aussi.
Standalone, ouais. Des 12 singes, où en gros, à la base, dans le DK système, l'idée c'était le MJ envoyait des dés, enfin des dés crasses, et les joueurs les récupéraient pour pas les utiliser ensuite. Et,
là, c'est l'inverse.
Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les joueurs balancent de la crasse, ils en ont autant qu'ils veulent, mais par contre, elles sont soigneusement stockées par le MJ qui va te les renvoyer dans la tronche.
Après, tout à fait. Bah, c'est un peu le même principe, ouais. C'est exactement ça. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Il y a vraiment cette ambiance de fin du monde, de trucs décadents, de grands puissants, de technologie hyper balèze, mais en même temps pas. De monde qui devient de plus en plus dégueulasse, de monstres qui apparaissent, etc. En fonction des niveaux de l'avancée de la campagne, des fronts, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment très intéressant, il y en a partout, il y a plein de petits éléments, et je pense que les joueurs peuvent pas s'ennuyer avec ça. Vraiment pas. Donc voilà.
Alors qu'est-ce qu'il y a comme type de on va dire d'épreuve?
Y en a une où tu dois par exemple t'arrives sur une station de pompage du pétrole qui est en pleine tempête, qui est en train de se détruire, et au moment où tu débarques en hélicoptère, il faut que tu t'aperçois que le truc est en train de s'effondrer dans l'eau, et donc il faut aller sauver des gens, et t'as une personne à les récupérer au minimum. Donc ça, c'est genre un savant important. Et si tu le récupères pas, bah déjà, t'es dans la merde. Et ensuite de ça, si tu assures vraiment bien, tu vas pouvoir aller chercher non seulement lui, mais en plus les autres scientifiques de la base ou des ingénieurs qui vont pouvoir t'aider par la suite, des choses comme ça.
Ok.
Tu vois, ça peut être ça. Et tu débarques directement là-dedans. Et après, t'as des jets à faire. Tu choisis si tu restes près de l'hélicoptère pour éviter qu'il tombe dans l'eau, pour que vous puissiez vous barrer facilement. Ou si tu restes... sur la station aider les gens, enfin c'est encore une fois des choix tout le temps. Moi c'est ça que j'aime.
Okay. Très bien.
Il y a aussi un truc qui fait que les joueurs peuvent difficilement mourir, on va dire, en vrai. Si tu veux, quand ils meurent ou quand il leur arrive un truc très grave, c'est du temps perdu, et le temps c'est super important.
On leur impose un malus, mais ils continuent quand même à jouer.
Exactement.
Quoi.
Je crois que c'est Pascal Obispo qui avait dit que le temps c'était de l'amour. Je crois.
Oh, putain, la vache.
Ah, c'est la pire blague, arrête. non mais alors le temps c'est pas de l'argent, c'est vraiment très très important. C'est qu'ils sont en temps limité, ils ont leur piste à explorer, et même au sein d'une piste par exemple, t'as parfois des compteurs de temps.
Jean-Baptiste ne reviendra plus.
Jamais. T'as des compteurs de temps, c'est-à-dire que tu dis bah voilà, si tu passes trop de temps à faire ton enquête parce que ça fait chier tout le monde, hop, je te coche des cases et tu vas meurfler.
D'accord.
C'est cool parce que ça résout le problème de la mort du PJ où ça emmerde tout le monde parce qu'on est obligé d'en recréer un et de le réintégrer de façon pas cohérente dans le groupe. Là, il meurt pas, mais il y a vraiment un truc très grave qui se passe.
Voilà, c'est assez pénalisant pour l'ensemble. C'est pénalisant pour l'ensemble. Donc c'est bien, c'est pénalisant, mais en même temps, t'es pas là en train de te refaire ton perso ou de changer des trucs, quoi. À la fin, ma seule conclusion, c'est que je conseille très fortement ce jeu aux gens qui adhèrent à ce genre de principe. Voilà.
Ah bah c'est marrant, tu vois, mais moi je l'ai, je l'ai pris aussi, et je lui aurais pas donné sa chance comme ça, tu vois.
Je te dis, les deux premières pages, elles m'ont fait vraiment tout drôle. Hein. Je suis tombé de ma chaise direct en disant oh, putain merde quand même, je m'attendais à autre chose. Mais en fait, ça passe. C'est dans un délire cinématographique.
Ouais.
C'est pas pire que un James Bond quelconque, quoi.
Ouais. Non, mais tu l'as bien vendu. Ça, c'est plutôt pas mal.
Voilà. Ok. Bon, on va faire DD Next.
Allez, DD.
Allez, Donjons et Dragons.
Oui, alors, toute chose égale par ailleurs, on va pas vraiment parler de D&D Next, mais du Starter Set donc, de D&D. Donc, j'ai pas l'ensemble du matos en main, je n'ai pas le trio le sacré, voilà, Player Handbook, Dungeon Master Guide et Monster Manual. J'ai le kit de démarrage, donc, pour jouer avec une équipe de 4 à 5 joueurs du niveau 1 au niveau 5, donc ce qui représente quand même quelques belles heures de jeu pour finalement une somme assez modique. Dans une optique, on va rigoler, on va prendre 3-4 soirées entre potes. Bon bah ça fait 19 euros les 3-4 soirées pour un MJ et entre 4 et 5 joueurs, ce qui moi me paraît tout à fait raisonnable, puisqu'on a dans cette grosse boîte le résumé des règles. Une mini.
C'est parce que là, il n'y a que les petits bouquins, mais c'est une grosse boîte.
J'ai pas ramené la grosse boîte parce que mon sac était déjà archi plein, mais c'est une grosse boîte qui est remplie en fait à, on va dire, un tiers par ce qu'il y a dedans, ce qui va permettre donc de mettre plein d'autres trucs dedans quand les d'autres choses seront sorties, ou de mettre du matos, ou des plans, ou des machins, ou des bidules, ou une photo de Laurie pour ceux qui aiment la pop musique. Déchaîné.
Je suis
en grande forme. Ceci posé, donc, qu'est-ce qu'on a dans cette grosse boîte ? Donc, un premier livret avec une version expurgée des règles de D&D 5/Next/rien du tout, puisque la version officielle, c'est que cette cinquième édition s'appellera D&D tout court. Donc, ça a été pensé à part de playtest D&D Next. On a pensé à D&D 5, ce sera juste D&D. Une façon de remettre les compteurs à zéro et un argument marketing, enfin un coup de bluff marketing intéressant de la part de Wizard, puisque l'idée de cette édition était quand même de ramener tous les gens qui ont déserté D&D. Donc déjà évidemment la plus grosse faction séditieuse, à savoir les joueurs de Pathfinder, mais aussi tous ceux qui sont revenus aux éditions antérieures, donc tout le mouvement Old School Revival, et aussi quelques nouveaux hype qui sont allés faire du...
Ceux qui jouent à DCC...
Voilà, ceci dit, là, c'est encore un cas très particulier, DCC, parce que c'est vraiment un objet ludique curieux. Mais voilà, et on parle donc des séditieux hype, donc ceux qui peuvent jouer à DCC, mais aussi à 13e âge, par exemple.
Oui, dont tu parlais l'autre fois.
Tout à fait. Et donc,
avec
là,
délectation.
Oui, parce que c'était déjà très bien. Mais là, à mon avis...
C'est encore mieux, d'après toi.
Non, en fait, ce que j'avais dit à l'époque, ce qu'on avait dit avec Yannick, c'est que ça allait être compliqué pour Wizard, entre 13e âge et Pathfinder RPG, d'exister. Et je pense qu'ils ont relevé le gant, je pense qu'ils sont arrivés. Je dis ça en ayant vu que le starter set. Si ça se trouve, c'est un coup de bluff complet, et les trois bouquins de base, ce sera de la merde. Mais là, pour le moment, au niveau du starter set, donc qu'est-ce qu'on a ? Alors là, je vais me faire beaucoup d'ennemis, le djihad DD4 est encore très puissant en France, et généralement armé. Qu'est-ce qu'on a là ? On a...
D4, ils doivent pas être très très nombreux quand même.
Détrompe-toi. En tout cas, je sais pas s'ils sont nombreux, mais ils sont extrêmement véhéments.
Ah oui, toujours.
On verra sur les commentaires.
Moins ils sont nombreux, plus ils sont dangereux.
À savoir que ce nouveau DD, c'est finalement une continuité de DD3, mais une version vraiment épurée au maximum. Les mecs se sont quand même bien rendus compte sur DD3 qu'il y a un truc qui marchait pas. Notamment le fait, enfin ils ont eu ils ont été tentés par le côté obscur de l'exhaustivité d'un côté, ce qui te faisait que tu te retrouvais avec des règles pour savoir comment t'allais lasser tes lacets, et de l'autre côté parce qu'ils voulaient promouvoir on va dire l'esprit Magic the Gathering dans le jeu de rôle, à savoir ce qu'ils appellent le concept de mastery, qui était extrêmement intéressant. L'idée, c'était de récompenser le joueur qui allait vraiment s'approprier les règles. Sous-entendu, le mec qui allait acheter plein de suppléments pour aller chercher les feats qui tuent pour te faire un perso aux petits oignons. Ces deux concepts-là ont été oubliés. On est revenu à un moteur finalement extrêmement simple, mais beaucoup plus simple que les D3, et avec, en tout cas pour ce qu'on peut voir sur le starter set, un concept de mastery nul ou non avenu, puisqu'au final, et ce qu'on peut voir aussi par les autres informations qu'on filtrait, le joueur vraiment lambda qui n'a pas envie de se prendre la tête a des options qui sont à prendre, qui seront aussi bonnes, voire meilleures que les options plus spécialisées. Donc vraiment, on peut jouer un perso très basique, s'éclater, etc. Il y aura probablement du grain à moudre pour les optimisateurs, parce qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours dans D&D, mais on est dans cette logique-là. En ce sens, il faut quand même bien le dire, et c'est là on en revient au djihad DD4, ce nouveau DD tourne le dos complètement à l'expérience DD4, et je vais prendre un risque, je tente, je lance les dés. Pour moi, ce DD, c'est DD4. Dans le sens où une nouvelle édition est la continuation et l'amélioration de la précédente, ce DD, c'est les DD4. Et
il aurait dû être celui-ci aurait dû être DD4.
Alors, disons, le truc de « il aurait dû », ça veut dire que DD4 n'était pas réussi. En soi, c'était un jeu réussi, mais c'était un jeu qui était vraiment en rupture.
Oui, d'accord. Dire que s'ils avaient continué leur réflexion suite à DD3, ça aurait été plutôt
c'est ce qui
celui-là.
C'est ce qui s'est passé. Les mecs ont fait celui-là en partant de DD3, pas de DD4.
Oui,
tu vois.
Et ils ont incorporé quelques bonnes choses de DD4, parce qu'il y avait des trucs qui pouvaient être facilement récupérés. Non, mais vraiment, DD4, c'est une parenthèse.
Ouais, même l'ambiance, c'est pas la même, tu vois. L'ambiance, le style de jeu. Moi, je m'étais un peu pas engueulé, mais on a vu des mots avec François il y a quelques jours. Et je disais que moi, celui-là, c'était DD 3-8. Et il me disait, mais non, mais pas du tout. Je dis, mais si, c'est un peu DD 3-8.
Je suis d'accord.
C'est même pas, j'irais même pas jusqu'à dire c'est le 4. C'est parce qu'il y a tellement d'éléments de DD 3. C'est DD3 expurgé de tous les trucs relous.
Tout à fait.
Enfin, vas-y, continue, tu vas l'expliquer, j'imagine.
Non, mais j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est, sur ce point-là, parce que évidemment, j'ai plein de choses à ajouter. Je vais expliquer pourquoi. Mais dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Donc, je pense qu'on se prendra François 2 voilà, la prochaine fois. C'est vraiment...
Pas de violence.
Pas de violence.
Pas de violence, c'est les vacances.
C'est-à-dire qu'ils ont mis DD4 entre parenthèses. Alors, je rentrerai pas dans le débat de pourquoi cette édition, selon les vues de Wizards of the Coast, s'est plantée. DD4 avait des qualités. Je fais partie de gens qui jettent le bébé avec l'eau du bain. Elle avait des gros défauts, quoi qu'en disent les djihadistes. Mais elle, dans un cadre très ciblé, à savoir vraiment le DD pour faire du dungeon crawl, c'est peut-être la meilleure édition qui soit jamais sortie. Le problème, c'est que dès qu'on sortait du dungeon crawl... c'était quand même plus problématique. On se retrouvait quand même avec un jeu qui était pensé, optimisé pour le combat tactique, et qui dans ce sens fonctionnait très bien, mais qui en dehors de ça, il y avait il y a des choses qui ne collaient pas, il y avait une ambiance qui était quand même assez particulière, et qui a fâché beaucoup de monde. En plus, d'un point de vue marketing, ils ont quand même vexé un petit peu tous les vieux de la vieille en prenant lesquels, genre en gros, avant, la façon dont vous jouiez, c'était ringard, maintenant, ça y est, c'est bon les mecs, on y arrive. Et donc là, c'est ce DD-là, le nouveau, le next, le 5, c'est une sorte de gigantesque mea culpa. C'est, voilà, on va vous fournir une machine unifiée, parce que c'est bon, les mécaniques séparées des vraies vieilles versions, plus personne n'en veut objectivement, même les gens qui vont t'expliquer que c'est génial d'avoir et des pourcentages pour le voleur, et un D20 moins pour le combat, et un D20 plus pour autre chose, non, c'est plus possible, on en a marre. Et les deux D6 pour le prêtre, pour le valet rétro, non, c'est plus faisable. Donc une mécanique unifiée, encore plus unifiée que dans DD3, parce que dans DD3, les mecs te disaient « Ouais, c'est mécanique unifiée, c'est D20 plus modificateur », sauf que pour chaque fiche, t'avais quelque chose comme 6 modificateurs et 6 échelles différentes. Entre les sauvegardes, le combat, les compétences, qui étaient à chaque fois sur des degrés légèrement différents, on s'y retrouvait plus. Là, c'est une mécanique, D20 unifié, une échelle, et le tout dans un esprit old school, là vraiment, là où ils ont voulu récupérer les vieux de la vieille, c'est sur le côté jeu simple. C'est vraiment... là, vraiment, les 32 pages de Hack, c'est un régal à lire. Tout est évident, tout est limpide, tout tombe sous le sens. Il y a moins d'expérimentation que dans 13e âge, par exemple, où ils avaient été un petit peu piochés dans du indie, en mettant un petit peu de freeform par-ci, etc. Le rapport au...
Avec des enterrements de marins.
Oui, tout à fait. T'as fait ta classe.
Détente Quechua.
La classe de prestige marin où tu finissais par mourir. Donc, enfin bon, bref, c'était très compliqué. Mais là, on est vraiment sur du basique, mais une mécanique simple, épurée et bon sang de bois, ça fait plaisir. Alors, ce choix d'une échelle de progression, enfin d'une échelle de difficulté cohérente pour toutes les actions, que ce soit taper sur la gueule de l'ogre ou escalader une tour, c'est quand même c'est très bien. Et ils ont aussi esquivé le gros souci qu'avait eu DD3, l'autre gros souci de DD3, à savoir la progression des modificateurs, qui faisait que comme tu te prenais quasiment du plus 1 à tous tes jets à chaque niveau, tu te retrouvais à la fin à devoir systématiquement opposer à tes joueurs une porte démoniaque runique renforcée en adamantium pour que le voleur ait un peu de challenge.
Alors, T'en as pas parlé, est-ce que tu veux que je le fasse, de parler du cœur du système rapidement, justement ?
Je t'en prie.
Alors, non, mais l'idée, elle est exactement comme avant.
On sent que t'en avais trop envie.
Non, c'est pas ça, c'est parce que je pense qu'on n'a pas encore expliqué ce qu'était le système et pourquoi ça donne ça. Et c'est très très simple et très rapide à dire. On continue à lancer un dé de 20 pour son action.
Je suppose qu'on a toujours 6 caracs.
On a toujours le 6 caracs, force, constit dex, enfin bon, les trucs habituels. Et on a toujours 6 caracs, on a toujours les mêmes bonus, tu sais, si on a 18, on a plus 4, etc.
On a toujours des compétences.
On a toujours des compétences, on en a bien plus. Et surtout, les compétences sont binaires, je vais vous expliquer. C'est est-ce que tu l'as ou est-ce que tu l'as pas. Et une fois que tu l'as, tu vas pouvoir rajouter ce qui s'appelle dans le jeu, c'est quoi ? C'est proficiency. Donc on va dire des degrés de maîtrise qui correspondent à ton niveau. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu es au niveau 1, tu as un bonus de proficiency de plus 2. Et quand tu es niveau 20, tu as un bonus de proficiency de plus 6. C'est-à-dire que là où avant tu avais des tables par classe de personnages qui t'expliquaient qu'à tel niveau tu avais tel point de bonus en attaque, en machin, là en fait tu as un seul truc qui est le proficiency. Si tu es niveau 10, je dis n'importe quoi, tu as un proficiency de plus 4. Et c'est tout.
D'accord. Ça s'applique uniformément de la même manière pour tous les.
Ça s'applique pour tout pareil.
D'accord.
Alors il y a un truc, ça entraîne un certain nombre de trucs intéressants. Quand tu fais un jet, tu lances un dé de 20. Plus ton bonus de proficiency ou pas si t'as la compétence, c'est-à-dire que si t'as la compétence tu rajoutes, si tu l'as pas la compétence tu le rajoutes pas tout simplement, plus un bonus de carac et c'est tout, et ça te donne, et tu dois battre un facteur de difficulté. Donc si tu dois attaquer un orc, t'as un dé de 20 plus 4 parce que t'as 17 en force on va dire, plus 2 parce que t'es niveau 1, donc ça fait un dé de 20 plus 6. Ok, si t'es magicien et que tu veux mettre un coup,
t'as plus 2 parce que t'es niveau 1, parce que t'es le guerrier et que t'as ton proficiency bonus qui s'applique au fait de mettre un grand coup de l'épée bâtarde dans la tronche de l'oc.
Parce que t'as ton proficiency.
Tout à fait.
Si t'es un magicien qui veut frapper au bâton le même ogre et que t'as par exemple 17 en force parce que t'as envie d'être un magicien très fort, et bah t'as aussi plus 3 et t'as aussi ton bonus de proficiency parce que tu te sers de ton bâton qui fait plus 2.
Mais si tu te servais d'une épée bâtarde, tu n'aurais pas le proficiency
bonus. Donc tu toucherais pas bien.
Parce que tu, en tant que magicien, tu ne sais pas manier l'épée. Voilà.
Okay. Alors, ce qui va différencier un guerrier d'un magicien qui va frapper le monstre, c'est évidemment tous les petits pouvoirs qu'il y a autour. Et tous les petits... enfin, il n'y en a pas 50 d'ailleurs, mais les avantages ici ou là qui font que quand tu es guerrier, bah, t'as quand même le long de ta progression, tu as quand même des pouvoirs qui apparaissent et qui permettent d'être plus efficace en combat, ce qui n'est pas le cas quand tu es magicien, évidemment. Donc voilà, c'est extrêmement simple. La seule entorse à ça, c'est que des fois, tu as des demi-proficiency et des fois, des doubles proficiency. Ça peut être des pouvoirs de classe ou de race ou des choses comme ça, ou des fois tu vas, en tant que voleur par exemple, tu vas rajouter deux fois ton proficiency quand tu vas crocheter une serrure. Voilà. Tu vois, c'est juste ça. Donc globalement,
ça s'applique de mémoire dans le starter set co-voleur pour effectivement deux types d'actions particulières, et dans ce qu'ils ont laissé voir du PHB pour le barde. Et en gros, cette méthode du double proficiency bonus, on l'applique deux fois. Elle vise à simuler ce qu'on appelait les skills monkey, donc en gros les classes qui avaient plein de compétences dans les éditions précédentes.
Ou alors quand tu veux optimiser tel ou tel point. Donc voilà, c'est très simple, ça fonctionne très très bien, et voilà. Et en gros, ça peut se résumer à ce que je viens de dire.
Oui, et ce qui est très intéressant, donc je vais embrayer complètement sur ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, quand tu te dis qu'un niveau 20, c'est un proficiency bonus de plus 6, bah, on obtient un monde qui, contrairement à celui de DD3, 3.x, est beaucoup plus ramassé. Dans le sens où on n'a plus besoin de justifier, pour donner un challenge à tes joueurs, un univers en carton-pâte complet où tout est relatif. La porte bien solide que le marchand avait payé au départ, le truc genre bien renforcé, bah certes, elle fera beaucoup moins chier le voleur de niveau 20, mais il ne va pas la passer les doigts dans le nez. Il a encore des chances de se planter, tout simplement parce qu'entre le niveau 1 et le niveau 20, il n'aura augmenté ses chances de réussite que, mettons, de 50%, en équivalent en bonus de plus sur un dé 20. Mmh. On a un univers beaucoup plus ramassé. La classe d'armure des monstres, on n'est plus obligé d'envoyer des monstres avec une classe d'armure qui atteint des valeurs stratosphériques, tout simplement parce que le bonus au toucher, même des classes combattantes, n'aura pas augmenté tant que ça.
Ouais, ça évite la course à l'armement, de la production, de la protection la plus résistante face à l'arme la plus puissante.
Oui, et ce qui justifiait que dans DD3, parce qu'en plus leur système était affreusement mal branlé de ce point de vue-là, tout guerrier de haut niveau devait avoir l'armure plus 5, le bouclier plus 5, l'anneau de protection plus 5 pour pouvoir avoir une classe d'armure.
Ça corresponde, quoi.
Voilà, qui correspondent au bonus d'attaque des monstres en face, tout simplement.
C'était calculé comme ça aussi. Là, c'est vrai qu'ils ont évité ça et que ça, c'est vachement plus ramassé. Donc, enfin, moi, je trouve ça, à la lecture, en tout cas, c'est plus intéressant, c'est très simplifié. Un mot sur les classes de personnages, il y en avait 4.
Alors, dans le starter set, les classes de personnages qu'on te propose, donc on propose 5 prêts-tirés, 2 guerriers, un voleur, un magicien, un prêtre. Dans le starter set, ça correspond donc, comme je viens de le dire, aux classes vraiment basiques, celles qu'on peut retrouver dans les règles basiques. Je vais revenir là-dessus parce que c'est une initiative vraiment super sympa qu'ils ont mis en place là-dessus. Donc on est vraiment dans les iconiques sans aller jusque les petits à côté. Et ce qui est très intéressant dans les pré-tirés, et ce qui apportera du grain à moudre aux fans du donjon à l'ancienne qui disaient que les classes surnuméraires finalement n'étaient pas si indispensables que ça, c'est que rien qu'avec le système de compétences, le micro-système de dons que nous on ne voit pas dans Starter 7 mais qu'on devine planqué derrière les stats des pré-tirés, mais qui a l'air d'être extrêmement discret, entre les deux guerriers, rien qu'en changeant leurs compétences, changeant leur arme de prédilection, etc., en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a un chevalier, meneur d'hommes et un ranger. Mais avec la même classe, les mêmes trucs, mais ils ont juste pas les mêmes comps, pas les mêmes caracs, pas la même arme de prédilection, et tout de suite, c'est évident, on n'a pas du tout les mêmes personnages.
Dans le bouquin que j'ai lu, moi, c'était pas le starter set, c'était la version le PDF, basique.
Ouais.
T'avais 4 classes de perso, donc c'était guerrier, magicien, prêtre et voleur.
C'est ça.
Et ensuite, chacune de ces 4 classes de personnages avait le droit de choisir une sous-classe, une espèce de spécialité.
En fait, c'est un background.
Non, c'était pas je parle pas des backgrounds spécifiquement, je parle vraiment d'une spécialité. Il y avait le guerrier qu'on avait 2, mais t'avais genre le magicien, t'avais un type de magicien particulier qui donnait un set de compétences différents, etc.
Alors, moi j'avouerais que je n'ai pas lu encore le Basic Set, tout simplement parce que comme c'est quand même un gros pavé, j'ai pas envie de le lire sur PDF. Je compte me l'imprimer à un moment ou à un autre, et je l'imprimerai quand il sera fini. Or là, pour le moment, il est en cours de création.
Train, ouais.
Donc, pour ceux qui ne savent pas le Basic Set, c'est voilà, dans la série, les petits plus de DD en termes de bon esprit, etc.
Alors, tu me perds un peu. Mais je vais expliquer. Versions,
je vais t'expliquer. Okay. On a le starter set qui est sorti en boîte, qui est vraiment cette espèce de combinaison règles sur 32 pages, mini campagne, fiches pré-tirées dans une grosse boîte. Mais à côté de ça, donc moi je l'ai payé 19€ dans une boutique parisienne, vous pouvez probablement le trouver.
Il y a des dés avec ?
Il y a la pochette de dés bleus, effectivement, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Ça c'est le starter set, donc c'est vraiment ce qu'on a eu dans quasiment toutes les éditions de DD, l'idée de le truc que tu vas offrir à ton neveu pour qu'il apprenne à jouer. Notamment ça se voit au niveau de la campagne, la mini-campagne où il y a plein de conseils pour MJ débutants. Starter set. Le basique, c'est quoi ? Donc, c'est cette démarche, ce petit truc, cette petite main tendue au release que moi, je trouve super de la part de Wizard. C'est qu'en gros, les règles pour jouer dans l'esprit basique, si vous vous souvenez bien, c'était la dénomination qu'on utilisait pour la boîte rouge de la grande époque. Donc, les règles pour jouer les 4 classes de base, les 4 races de base, donc 4 classes de base, guerrier, voleur, prêtre, magicien, 4 races de base, humain, elf, hobbit et nain. Donc, les règles pour les jouer, une bonne base de monstres et d'objets magiques, etc. Bref, une version abrégée de chacun des 3 grands volumes, donc Manuel des joueurs, patati patata, ont été libérés en PDF, gratos, pour tout le monde. Là, pour le moment, il n'y a que l'équivalent du Manuel des joueurs, donc on n'a pas encore les objets magiques et les monstres gratos, mais vous pouvez télécharger de quoi jouer du niveau 1 au niveau 20, les 4 races iconiques, les 4 classes de base, gratuitement en PDF. Et ça, je trouve que c'est une super démarche de la part de
Wizard. Non seulement c'est une bonne démarche, mais si je peux me permettre, moi, c'est à partir de ça que j'ai eu le jeu, et il est parfaitement utilisable.
Tout à fait. Mais le principe...
Je vous dirais direct ça.
Le principe affiché est « Nous voulons pouvoir vendre nos campagnes DD5 à des gens qui n'ont que téléchargé le basique gratuitement. » L'idée, donc, c'est que le basique doit pouvoir permettre de jouer toutes les campagnes qui vont être sorties par la suite. Les campagnes ne feront pas explicitement référence à des règles supplémentaires qu'on trouverait dans les versions payantes.
Alors ça veut dire qu'ils ne basent plus leur modèle économique sur la vente d'un maximum de manuels de joueurs en sous-traitant la production de background. Et
alors mon ressenti perso,
et là ce que tu dis c'est exactement le contraire en fait.
Mon ressenti personnel c'est que ils sont plus ou moins assurés, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça marche, de vendre de toute manière le trio de base. Ils vont le vendre,
c'est sûr.
Tout le monde va l'acheter, moi je vais l'acheter, on va tous acheter.
Évidemment.
Voilà. Mais leur problème ça a toujours été de vendre les campagnes parce que généralement déjà elles étaient de moins bonne qualité, mais il y a eu des très bonnes campagnes dans l'histoire de DD, hein, mais globalement, notamment DD4, ce qui a flingué cette édition, c'était cette sortie, les premières sorties, quand je dis les premières, les deux premières années de DD4, où c'était scénario de merde sur scénario de merde, on n'en finissait pas. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vendre aussi les campagnes, déjà une grosse campagne en 2 tomes qui est prévue juste après la sortie du triptyque de base, ouais. De le vendre à des gens qui n'auraient pas forcément acheté le triptyque de base, en disant, si vous voulez, vous pouvez jouer gratos, le basique, il est téléchargeable gratuitement, voire éventuellement, pour peu que ça fasse référence uniquement aux monstres du bestiaire du basique, donc qui a assez peu de stat blocs, de vendre les campagnes à des gens qui jouent à une autre édition de DD. Donc moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont vraiment envie de vendre chaque produit pour ses mérites propres, ce que je trouve très bien. À côté de ça, donc comme tu le disais, ce qui est extrêmement intéressant et qui est un cas, à mon sens, unique dans l'histoire de DD, c'est que même si Wizard of the Coast va être 100% responsable donc, du triptyque de base, la première campagne qui sort, donc en 2 tomes, elle a été commandée à une petite équipe, donc c'est de mémoire, c'est Kobold, l'équipe qui publie Kobold Quarterly, donc c'est une petite maison d'édition qui avait sorti un setting qui s'appelait Midgard, qui était un setting générique qui pouvait être joué soit avec DD4, soit avec Pathfinder RPG, qui avait fait du très bon boulot, et c'est eux qui sont en charge de la création de la campagne pour DD. Donc la première campagne pour ce nouveau DD ne sera pas écrite par le designer de Wizard of the Coast. Je trouve que c'est un message fort, et je pense qu'ils ont vraiment intégré le fait que leur scénario complètement pourri du début de DD4 avait en partie été la cause de la fin de cette édition. Ça se voyait déjà à la fin de DD4, puisque on va dire que les 4 ou 5 derniers suppléments de scénar et de contexte qui sont sortis pendant la période de transition où ce DD5 était en playtest et où DD4 était en fin de vie, étaient de très bonne qualité. Et donc, je pense qu'ils ont tiré la leçon de l'aventure Pathfinder RPG, puisque Pathfinder leur a taillé des croupières parce que leur première campagne, elle déboîtait, et où ils se sont dit, on ne peut plus se contenter de filer des bonnes règles et les scénarios de merde, maintenant, il va falloir qu'on assure sur les 2 volets de vente.
Bah, c'est pas plus mal, du coup.
Non, c'est pas plus mal. En ce qui concerne l'attitude générale de Wizard sur ce produit-là, j'ai l'impression qu'ils ont, contrairement à précédemment, peut-être, ou mieux, en tout cas, ils ont beaucoup écouté la communauté. C'est-à-dire que moi, je me souviens je sais qu'ils font jouer, ils faisaient jouer par exemple des playtests dans des boutiques, et ensuite, il y a les gens qui venaient sur Internet ou qui leur envoyaient des mails en disant voilà, il y a ça qui va pas, ça qui va, etc. C'est ce qui se fait par exemple dans le développement open source ou les choses comme ça, où tu écoutes beaucoup la communauté, tu la fais participer pour qu'au final, le produit leur ressemble le plus possible. Et moi, ce que je vois dans ce que j'ai lu là, qui m'a beaucoup plu, alors que je suis pas vraiment un adepte de donjon en général, c'est que tout ce qu'on a pu remonter qui allait pas bien dans l'édition 3.5, parce qu'on voit qu'ils sont partis de là, a été amélioré ou même carrément enlevé, quoi. Et ça sent vraiment l'écoute des utilisateurs.
Et même en termes de game design, moi, je trouve vraiment cette édition... Quand on voit... quand Pathfinder est sorti, ils avaient fait aussi un open playtest, etc., pour améliorer la 3.5. Au final, il en est sorti quelque chose, je le maintiens, qui est, à mon sens, pire que la 3.5, parce que Pathfinder RPG est encore, quelque part, beaucoup plus lourd que l'édition précédente. Eux, avec un open playtest, ils sont vraiment partis, ils ont épuré le truc. Vraiment, ils ont enlevé tout ce qui dépassait, tout ce qui pouvait nuire à l'expérience de jeu, vraiment nuire à l'imaginaire, nuire au plaisir ludique, mais parce qu'il y a une volonté vraiment sur ce DD, et ça se voit sur le choix du titre, DD tout court, donc... Ouais. De rassembler tout le monde. Ils veulent récupérer les vieux. Ils veulent récupérer les gens qui jouent maintenant à Osric, à Labyrinth Lord, etc. Les gens qui sont revenus sur les vieilles éditions. Ils veulent récupérer un peu des gens de Pathfinder. Ils veulent faire bonne figure par rapport donc, à 13e âge, à Dungeon World, même quand sais-je, ou des choses comme ça. Et donc, il y a une volonté de ramener DD au plus petit dénominateur commun. Voilà ce qu'on vous propose, c'est une expérience. Quelque part, vous y avez tous déjà joué, sauf qu'on va vous filer une mécanique épurée à l'extrême, extrêmement efficace. Vous ferez votre bousin avec, parce que tout le monde fait des règles maison, etc. Moi, j'ai mes règles maison, et ce qui est intéressant, justement, comme c'est des règles maison pour la 3.x, c'est que je vais pouvoir les utiliser telles quelles pour celle-là. Donc moi, je vais pouvoir je suis déjà en territoire connu avec cette édition, et en même temps...
Tu vas pouvoir réutiliser des règles.
Des règles maison. Enfin, je sais que par exemple en 3.5, j'utilise une règle qui fait que moi, en tant que maître de jeu, je ne lance jamais les dés.
D'accord, ok. Voilà. Ah, ce type, c'est des, okay, d'accord, c'est des méta-règles, en fait.
Voilà, c'est, j'utilise une règle, en fait. Donc, au lieu d'avoir classe d'armure fixe pour tout le monde et, et jet d'attaque pour tout le monde, moi, j'ai une classe d'armure et d'attaque pour mes monstres, et les joueurs font un jet d'armure et un jet d'attaque. Donc, c'est les joueurs qui lancent les dés tout le temps, moi, j'en lance jamais. Ça, c'est un truc, j'ai pris l'habitude, ça me permet vraiment de me concentrer sur la narration, j'ai plus besoin de m'embêter avec des calculs savants, et ça, je vais pouvoir l'utiliser tel quel sur cette édition-là. Vraiment, je kiffe. Pareil, j'ai d'autres trucs que je vais pouvoir importer vraiment facilement. Bon, je vais arrêter de lancer que des fleurs. Pour moi, il y a peut-être un truc à voir. Ils sont revenus à un système de magie vancien. Donc, avec liste de sorts, sorts à mémoriser. Ils l'ont considérablement amélioré par rapport à DD3.
Si je peux me permettre, oui, ils l'ont amélioré. Et surtout, ils ont rééquilibré la puissance globale des magiciens au début et à la fin. À la fin, ils sont toujours, c'est toujours les plus balèzes.
Est-ce que tu as toujours ton projectile magique
non,
par jour?
Non, justement. Enfin, on va en parler. Mais tu as des cantrips, en fait. Tu as des sorts de niveau 0. Et l'un des cantrips de sort niveau 0 que tu peux lancer autant que tu veux, qui ne te prend pas d'emplacement de sort, rien. Donc, tu lances à volonté. C'est un sort d'attaque qui évolue avec ton niveau. Donc tu as ton, genre, je sais pas, un éclair, par exemple, bah, tu as ton éclair tout le temps. Ce qui fait que le magicien, c'est l'artilleur.
Donc, d'accord. Comme dans DD4, en l'occurrence, ton magicien n'aura plus jamais besoin de dire bah, « Je tire avec mon arbalète parce que j'ai plus de magie. » T'auras toujours un blast à balancer qui va s'améliorer avec ton niveau de façon relative, mais qui permettra d'avoir toujours une source de dégâts fiable, etc. Non, non, qu'on se comprenne bien. Ils sont revenus en système de magie vancien, mais ça reste le meilleur système de magie vancien de toute édition de Donjon Confondu. Je dis, là où je reste sceptique, et ce sera à tester, parce que ça a toujours été le problème de DD, c'est vrai pour toutes les éditions, le jeu à haut niveau, j'ai peur quand même qu'un mage de niveau 20 et un prêtre de niveau 20prennent beaucoup... Oui, mais c'est pas une question de puissance, prennent beaucoup plus de temps de jeu par rapport à un guerrier ou un voleur. Dans le sens où ils vont se retrouver avec le voleur, j'attaque, je fais un petit backstab, je fais un petit machin... Alors que le mage va se retrouver, alors quel sort j'utilise dans mes 22 sorts possibles? Je vais prendre celui-là que je vais upgrader au niveau 9. Et tiens, je te fais 9 ouais, D8 dans alors, les dents.
Oui, là tu parles d'une règle qu'on n'a pas expliquée. L'idée des sorts de magie, c'est que tu vas pouvoir préparer tes sorts comme avant avec ton grimoire ou avec ton dieu quand tu es prêtre. Sauf que contrairement à avant, la plupart des sorts, ils ont un niveau minimal, ils n'ont pas un niveau fixe. C'est-à-dire que par exemple, ton projectile magique qui va être niveau 1, qui va faire plus de dommages que ton cantrips laser là, tu vas pouvoir le lancer au niveau 1, mais tu vas aussi pouvoir le lancer au niveau 2, 5, 7, ce que tu veux. En fait, toi, plus t'es haut niveau, plus t'as des emplacements de sorts. Par exemple, quand t'es niveau 10, je sais pas, tu vas avoir des emplacements de sorts niveau 3, tu vas en avoir 3. Et ton projectile magique, si tu veux, tu vas le lancer au niveau 3, il va prendre un emplacement niveau 3. En fait, tu mets pas tes sorts dans les emplacements. C'est complètement
séparé. En fait,
séparé.
Les slots de sorts ne sont plus fixes. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu vas lancer un sort, tu vas déterminer quel sort tu le lances et avec quel slot de puissance tu le lances.
Ok.
Ce qui va te permettre effectivement de balancer les trucs.
Ta boule de feu, elle est minimum niveau 3. C'est-à-dire qu'il va falloir que t'aies des sorts niveau 3 pour pouvoir t'acheter le sort de boule de feu et le préparer. Mm-hmm. Tu vas avoir 3 emplacements niveau 3. Et puis quand tu vas monter de niveau, tu vas avoir des emplacements niveau 4, par exemple. Bah, ta même boule de feu que t'as acquis au niveau 3, tu vas pouvoir la lancer au niveau 4 et elle va faire plus de dommages.
D'accord. Ok, voilà. Ah, sympa.
Voilà, donc alors, je sais un système très efficace, très intéressant, notamment parce que ça permet, on en avait déjà discuté avec Yannick avant l'émission, d'éviter le syndrome du « mais pourquoi j'ai 17 sorts de soins ?» Bah non, t'en as plus besoin que d'avoir ton sort de soins de base, simplement, tu décideras à chaque fois à quel niveau tu lances de puissance, etc. T'as plus donc soins mineurs, soins majeurs, soins bidules, non, t'as soins. Sans lancer au niveau 1, 2, 3, 4, 5, patati patata.
Obligé de gaspiller des slots.
Et puis même des pages de règles, tout simplement.
Oui, en plus.
Voilà, donc, donc c'est un système très élégant en termes de vancianitude. Je maintiens qu'on va quand même se retrouver avec les joueurs qui jouent les lanceurs de sorts, qui vont avoir une feuille de perso de 4 ou 5 pages par rapport aux autres qui n'en auront qu'une. Ça peut ne pas être un problème pour les joueurs qui aiment le crunch.
Non, surtout, il me semble que le nombre de sorts est vachement réduit par rapport à avant, justement, pour compenser ça. Avant, tu avais besoin de plein de sorts, de plein de slots pour pouvoir préparer plusieurs fois le même sort.
Tout à fait, si j'ai bien compté, et sachant que j'ai pas les dons du jeu, il y aura, je crois, assez peu de dons, mais il y en aura quand même, et je soupçonne qu'il y en a un ou deux qui permettront d'avoir des sorts en plus. Si j'ai bien compté, un mage de niveau 20, c'est quelqu'un qui va avoir entre 20 et 25 sorts quand même à mémoriser au début de chaque aventure. Donc, de façon très concrète, le joueur va avoir sa fiche et l'impression des 20 ou 25 sorts derrière, ce qui va représenter 3 ou 4 pages de description
de
sorts.
Je vois ce que tu veux dire.
Voilà, c'est pas grave, il y a pire, il y a eu bien bien pire sur les éditions précédentes, mais je m'interroge, c'est pas une critique, c'est une question, est-ce qu'à niveau 20 la machine va tourner ? On sait que le playtest des parties à haut niveau a toujours été le point faible de DD, parce que les mecs, pendant les playtests, ils ont, quelles que soient les éditions, ils ont tous vachement playtesté les 10 premiers niveaux, généralement beaucoup moins les suivants. Et c'est généralement là que le bas blesse, DD3, c'est là où ça se plantait, DD4, c'est là où ça se plantait, etc. Les derniers niveaux, les niveaux vraiment épiques, est-ce que ce DD va réussir l'impossible, à savoir avoir un jeu aussi sympa à jouer à bas niveau qu'à haut niveau ? L'avenir le dira.
D'accord. Bon, en tout cas, c'est plutôt positif.
Ah, moi, je suis très enthousiaste. Je trouve que c'est le meilleur DD officiel jamais sorti. Encore une fois, avec le petit bémol que je n'ai lu que le starter set.
Du coup, ça rend de plus en plus intéressante la question de savoir qui va le publier en français, s'il est publié en français.
Oui, c'est pas dit, malheureusement. Mais je crois qu'il y a quelques éditeurs sur les rangs. On n'a pas les noms.
Ce serait quand même ballot.
Mais ce serait dommage.
Ce serait effectivement dommage. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Eh bien, si personne n'a de questions, on en a terminé aujourd'hui avec ce Radio Rôliste.
Oh oh !
Enfin ! Merci à tous, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir.
Merci.